Voilà, bonjour à tous. Je crois que ce matin, on est dans l'inspiration, un peu dans le thème de la, voilà, de mon intervention. Je voulais juste reprendre les chants que... Les chants qu'on a repris. Je viens dans ta présence. Seigneur de l'univers, rien n'a plus d'importance, rien n'a plus de valeur. Je viens chercher ton cœur, trouver ta volonté, me tenir prosterné en chantant tes louanges. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force, Jésus, agneau de Dieu. Et l'autre chant, c'était le 910. Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie. Et puis je voulais reprendre. L'autre chant. 873. Parce que c'est dans le thème de la prédication de ce matin, vous allez comprendre pourquoi. Ô Seigneur, enseigne-nous à te louer, t'adorer, en esprit et en vérité, pour que d'un même cœur, avec un même chant, nos voix s'unissent pour te glorifier, nous te donnons nos cœurs. J'aimerais prendre un texte avec vous ce matin. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 4, les versets 19 à 26. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites-vous que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit. Il faut que vous, que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. C'est la rencontre de Jésus avec la Samaritaine. Elle n'est pas juive. Elle n'est pas de la religion du judaïsme. Elle n'est pas chrétienne non plus, pas encore. C'est une femme qui vient à un puits, qui vient pour tirer de l'eau. Puis voilà, Jésus, il engage la conversation et puis il parle de ce qu'il peut lui donner. Et la femme lui dit, mais normalement, nous, Samaritains, comment on fait pour aller adorer Jérusalem? On n'a pas le droit. On n'est pas autorisé. Les Samaritains étaient des peuples d'Irak, Iran, Syrie, voilà, qui avaient été ramenés au 7e, 8e siècle avant notre ère. Et puis, voilà. Pour les Juifs, bah, ils étaient un peu des étrangers, malgré des centaines d'années, des siècles d'implantation. Voilà, ils habitaient sur une montagne qui s'appelle Samarie, et puis tout autour, ils avaient leur propre temple, leur propre religion, leur propre langue, leur propre culte. Très proche de celui d'Israël, ça ressemblait, mais ce n'était pas pareil. Alors la famille, moi je fais comment? Elle dit, ouais, les Juifs, ils attendent le Messie. Le Christ. Mais voilà, c'est qui? Je lui dis, c'est moi. Et puis là, il y a un changement. Il lui dit, voilà, bon, après, c'est vrai que tout le monde, jusqu'à ce jour, ou jusqu'à cette heure, venait à Jérusalem pour adorer. Mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce sont là les adorateurs que le Père demande. Donc, depuis ce temps de rencontre de Jésus avec la Samaritaine, le lieu, l'endroit, le moment pour adorer Dieu en esprit en vérité est universel. Que ce soit en Australie, chez les Inuits, à la Terre de Feu, en Nouvelle-Zélande, à Tahiti, en Chine, en Russie, en Sibérie, en Angleterre, partout, à Kevin, en France, partout, voilà. Les vrais adorateurs adorent Dieu en esprit et en vérité. C'était là le sens de la parole prophétique d'inspiration de Agnès ce matin. Pouvoir adorer Dieu n'importe où, avec ce parfum de bonheur, parfum d'excellence. Adorer Dieu en esprit, en vérité. En même temps, ce n'est pas nouveau, puis en même temps, c'est nouveau. Depuis 2000 ans, c'est possible pour chaque être humain, homme, femme, enfant, de venir adorer Dieu en toute liberté. L'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit, en vérité, car Dieu est esprit. On va voir, hein, il y a tout plein d'histoires de rencontres au sommet. Plein d'êtres humains ont fait des rencontres comme ça, directes avec Dieu, en esprit. Bien sûr, Adam et Ève, avant d'être chassés du paradis, voilà, Dieu les a rencontrés, puis leur a dit oh, vous êtes où? Qu'est-ce que vous faites? Enoch, on a juste deux phrases sur lui, il est dit, Enoch fut juste, fut agréable à Dieu, et Dieu le prit. C'est-à-dire, Enoch, il n'est pas mort, il est parti avec Dieu, en Dieu, on n'en sait pas plus, il a été enlevé parce que Dieu le prit avec lui. Noé a été divinement averti, on lui a dit, voilà, il va se passer des choses, construis-toi un grand bateau, mets des animaux dedans, et puis vogue sur l'eau. Abraham, en Irak, à Our, en Chaldée, parmi tout un peuple, voilà, c'était la civilisation de l'époque, la plus évoluée, l'écriture, le chauffage, l'adduction d'eau, civilisation complète, incroyable, énorme. Et puis là, une parole qui retentit dans le cœur d'Abraham, pars et puis va où je te montrerai. Et puis Abraham, par étapes, et bien il est parti. Un de ses descendants, Joseph, ses frères l'aimaient pas trop, ils l'ont collé dans une citerne, ils l'ont vendu comme esclave. Esclave en Égypte. Et par une suite, c'est comme une histoire à rebondissement, il va devenir Premier ministre. Noé, Abraham, Joseph, Moïse. Pharaon décide de liquider tous les premiers-nés d'Israël, tous les premiers-nés juifs. Une femme dit, non, moi je ne peux pas laisser tuer mon fils premier-né. Elle le met dans un panier avec des gens, elle le jette sur le Nil. Il est recueilli par une famille royale. Voilà, vous connaissez la suite, hein, il va devenir le libérateur d'Israël. Le peuple d'Israël a reçu la parole de Dieu, a adoré Dieu en esprit et en vérité sur la montagne. Ça n'a pas duré très longtemps. Tout le monde disait, oulala, c'est trop. C'est trop. Et puis, au travers de Moïse, Dieu va leur donner un tabernacle, un lieu de culte mobile. Et ils vont se balader comme ça pendant pas mal d'années. Josué, juge, Samuel, les premiers prophètes, David qui dit, bon, non, à force de déplacer cette tente, ce tabernacle, cette tente de la rencontre, moi j'aimerais avoir un lieu fixe. Donc on va construire un temple à Jérusalem, un temple permanent. Avant, c'était mobile, ça se déplaçait. Il y a des personnels de service, des sacrificateurs, des souverains sacrificateurs, des prêtres, des lévites, toute une organisation pour la propreté, les services, les portiers. Tout un culte, des chantres, des musiciens. Alors je vous invite à lire des textes qu'on lit très peu dans l'Église. 1 Chronique, chapitre 6. Peut-être vous allez découvrir des textes hein, dans ces livres des chroniques. 1 Chronique, chapitre 6. On va parler du culte liturgique. Le culte terrestre qui avait lieu à Jérusalem, d'abord dans le tabernacle mobile, ensuite dans un temple, un lieu permanent. 1 Chronique, chapitre 6, les versets 31-32. Voici ceux que David établit pour la direction du chant dans la maison de l'Éternel, depuis que l'arche eut un lieu de repos. Ils remplirent les fonctions de chantre devant le tabernacle, devant la tente d'assignation, jusqu'à ce que Salomon ait bâti la maison de l'Éternel à Jérusalem. Ils faisaient leur service d'après la règle qui leur était prescrite. Louez Dieu en esprit et en vérité. À l'époque, le peuple n'en avait accès qu'au travers du temple, avec toutes ses classes de chantres, de musiciens. On poursuit au chapitre 16 du même livre, les versets 37 à 42. David laissa là, devant l'arche de l'Alliance de l'Éternel, Asaph et ses frères, afin qu'ils soient continuellement de service devant l'arche, remplissant leurs tâches jour par jour. Il laissa Obed-Edom, Osa avec leurs frères, au nombre de 68. Obed-Edom, fils de Jelutun, Osa comme portier. Il établit le sacrificateur Tzadok, les sacrificateurs, ses frères, devant le tabernacle de l'Éternel sur le haut lieu qui était à Gabaon, pour qu'ils offrent continuellement à l'Éternel des holocaustes, matin et soir sur l'autel des holocaustes, qu'ils accomplissent tout ce qui est écrit dans la loi de l'Éternel, imposé par l'Éternel à l'Israël. Auprès d'eux étaient Aiman et Jelutun, les autres qui avaient été choisis, désignés par leur nom, pour louer l'Éternel, car sa miséricorde dura toujours. Auprès d'eux étaient Aiman et Jelutun, avec des trompettes, des cymbales, ceux qui les faisaient retentir, avec des instruments pour les cantiques en l'honneur de Dieu. Les fils de Jelutun étaient portiers. Le culte va s'organiser autour du temple, avec les sacrifices et avec de la musique. Il y avait déjà des trompettes, des genres de guitares, de sitar, voilà, il y avait toutes sortes d'instruments. Vous vous rappelez déjà que David était musicien, il était berger, il se croit roi, mais il était aussi musicien. Il jouait de la musique à ses moutons. Super, hein? La musique attendrit les mœurs. Alors, je ne sais pas si ça se passait mieux dans le troupeau le soir, voilà, pour se détendre. Eh bien, il faisait de la musique. Il faisait de la musique tellement bien que quand on a appris que le roi Saül était un peu perturbé dans sa tête, on a dit à David, eh, viens, fais-lui de la musique. Pas du rock, parce que ça énerve un peu. Alors, on ne sait pas quelle musique David jouait au roi Saül, mais il est dit que la musique apaise les mœurs. On poursuit dans le même livre, au chapitre 25, les versets 1 à 8. David et les chefs de l'armée mirent à part pour le service ceux des fils d'Azaph, d'Aiman, Jelutun, qui prophétisaient en s'accompagnant de l'harpe, du luth, des cymbales. Et voici le nombre de ceux qui avaient des fonctions à remplir. les fils d'Azaph, Jacques, Joseph, Nathanaël, etc., sous la direction d'Azaph, qui prophétisaient en suivant les ordres du roi. Là, il y a plein de noms qui sont cités. Ils étaient six sous la direction de leur père Jedutun, qui prophétisait avec l'harpe pour louer, célébrer l'Éternel. À nouveau, on a plein de noms de ceux qui sont là comme chanteurs, tous fils d'Aiman. Il était voyant du roi pour révéler les paroles de Dieu, pour exalter sa puissance. Dieu avait donné à Aiman 14 fils, 3 filles. Tout cela était sous la direction de leur père pour le chant dans la maison de l'Éternel. Ils avaient des cymbales, des luttes, des harpes pour le service de la maison de Dieu. Azaph, Jedutun et Aiman recevaient les ordres du roi. Ils étaient au nombre de 288, y compris leurs frères exercés au chant, tous ceux qui étaient habiles. Ils tirèrent au sort pour leur fonction, petits et grands, maîtres et disciples. 24 services de 12 personnes. 288. C'est charismatique. Le culte terrestre, le culte liturgique à Jérusalem était charismatique, pneumatique, spirituel, avec des hommes qui jouaient de la musique et qui prophétisaient. En relisant ces textes, j'ai connu qu'une fois dans ma vie, 76, j'étais à une grande rencontre au Danemark, près de 2000 personnes. Et puis là, il y avait, c'était à la mode des comédies musicales, toute une équipe de jeunes Danois qui avaient fait une comédie musicale. Et ils avaient un pianiste qui était pasteur et prophète. Et pendant la convention, avec son piano, il se mettait à jouer. Et il se mettait à prophétiser. Comme c'est écrit là. Je n'ai pas connu d'autres personnes depuis. Est-ce que quelqu'un l'a déjà rencontré? Que ce soit à l'accordéon, à la guitare, au piano. Voilà, des êtres humains inspirés qui, sous l'onction de la grâce, d'un coup, se mettent, ouais, Jean-Louis, ouais, t'as un job. Ça existe! Ouais. Ça existe. Il n'y a pas de changement avec ce que l'on peut vivre aujourd'hui. Sauf que ce soit, au lieu que ce soit 288, ça pourra être tout le peuple de Dieu, hommes, femmes, enfants, vieillards, qui prophétisent, ou en tous les cas qui annoncent la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. On revient dans Jean au chapitre 4. Parce que là, il y a un changement. On reprend Jean 4. On n'est plus au temple. On est à Jésus avec la Samaritaine, en tête à tête entre quatre yeux. Jésus va faire à cette femme une des plus grandes révélations que l'on trouve dans le Nouveau Testament. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient, ce ne sera ni sur la montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. L'heure vient, elle est déjà venue, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit, en vérité. Ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit. Et en vérité, tel que je suis, je viens à toi pour te rencontrer. Je veux m'approcher de toi et je veux te rencontrer en esprit et en vérité, entre quatre yeux, en tête à tête. On peut rencontrer le Dieu vivant au travers de Jésus, faire la même rencontre que la Samaritaine. Et plus tard, rempli de l'esprit, on peut chanter sous l'onction de la grâce des chants nouveaux, des paroles charismatiques, pneumatiques, spirituelles. voilà, pouvoir se laisser inspirer. Je reviens un petit peu plus tôt. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi qui es juif me demandes-tu à boire ? Moi qui suis une femme samaritaine. » Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, qui est celui qui te donne, qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire, il t'aurait donné de l'eau vive. » Seigneur, lui dit la femme, « Tu n'as rien pour puiser, le puits est profond. » D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que Jacob, qui nous a donné ce puits? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif, que je ne vienne plus ici. Jésus s'adresse à quelqu'un qui n'a aucun droit. Aucun droit. Je n'avais aucun droit de rencontrer le Dieu vivant et vrai. Aucun. Et puis un jour, il y a, on dit, de la révélation de la lumière, hein, mais aussi quelque chose qui a à voir avec une nourriture spirituelle. Aujourd'hui, on se nourrit avec la culture, bien sûr, des livres, du sport, des séries. Il y a des gens qui sont accros aux séries. Quand il y a 10, 15, 20, 30 épisodes, et puis c'est fait pour que... Il y a des écoles pour ça. Hein. Tous les quarts d'heure, clac, il y a le truc qui fait que... Ben non, mais je veux savoir la suite. Et puis, quand j'ai vu 20 minutes, ben non, mais je veux savoir... Puis 5, et ainsi de suite... Et parfois, des gens, ils vont au boulot le matin, bah, ils ont envie de dormir. Ils ont regardé des séries. On peut être accro. Hein. On peut être accro à plein de choses. Hein. Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Avoir une source d'inspiration pour notre vie. 50 ans que je vis et que je goûte à cette source d'inspiration, voilà, je ne veux pas qu'elle se termine. Je veux qu'elle me conduise jusque dans la vie éternelle. La Samaritaine a fait une rencontre au sommet. En même temps, c'était terre à terre. Et puis en même temps, cette femme a reçu une révélation extraordinaire que même les disciples ont eu de la peine à comprendre. Et Jésus s'adresse à cette femme, voilà, qui n'a aucun droit en Israël. Voilà, elle va chercher de l'eau et puis elle rencontre un homme. Puis tout d'un coup, elle dit, oui, là, j'ai rencontré le Christ, le Messie. Qui es-tu, Seigneur ? Je le suis, moi qui te parle. Pouvoir continuer à faire cette vraie rencontre dans nos vies. J'ai besoin d'une source d'eau vive chaque jour que Dieu fait. Et ce que j'ai reçu il y a 50 ans, à la gourde, elle est sèche. Celle d'il y a 50 ans. Il faut remplir celle d'aujourd'hui. Produit frais. Même si c'est de l'eau Mont-Blanc, hein, il y a de la pub partout. Alors, toutes sortes d'eau aujourd'hui, hein. De l'eau en bouteille, il y a l'eau du robinet, elle est moins chère. Le pain d'hier est rassis, l'eau d'hier c'est l'eau d'hier. C'est quoi l'eau vive d'aujourd'hui, de ce matin, de maintenant? Deux paroles d'inspiration ce matin. On a chanté des chants pour pouvoir une vie spirituelle, l'entretenir, c'est se laisser entrer dans ce culte. On va lire les textes qui font parfois un peu peur. Jérusalem, c'était un culte terrestre. On traverse la Samaritaine, Dieu dit, bon, il faut faire un pas de plus. Là où vous êtes, quiconque vient à moi peut m'adorer en esprit et en vérité. On lit dans Apocalypse au chapitre 4. Et apparaît le verset 4. Oh, je veux lire à partir du verset 1. Après cela, je regardais, voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, qui me parlait, dit, monte ici, je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt, je fus saisi par l'esprit. Il y avait un trône dans le ciel, sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe, de sardoine. Le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône, je vis 24 trônes. Sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, sur leur tête des couronnes d'or. Du trône sortent des éclairs, des voix, des coups de tonnerre. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal. Au milieu du trône, autour du trône, il y a 4 êtres vivants, remplis d'yeux devant, derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant a la face d'un homme. Le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes. Ils sont remplis d'yeux tout autour au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est, qui vient. » Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur, action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône. Ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Ils jettent leur couronne devant le trône en disant « Tu es digne, notre Seigneur, notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur, la puissance. » Car tu as créé toutes choses, c'est par ta volonté qu'elles existent, qu'elles ont été créées. Une louange trinitaire. 3 hommes seulement ont eu la révélation de ce culte céleste. Ézéchiel, Ésaïe et l'apôtre Jean. Ils ont vu Dieu sur son trône, dans cette majesté, avec ses 24 vieillards. 12 qui représentent Israël, 12 qui représentent les nations, l'Église. 4 êtres vivants qui représentent la création, qui sont préexistants. Hein. Il y avait déjà un lion, un veau, un aigle, un homme. Ces choses-là, ces représentations-là, sont déjà autour de Dieu. C'est toute la création qui adore Dieu. Et ces 24 vieillards se prosternent dans l'adoration. Et même s'ils ont reçu une couronne, ils la rendent à Dieu. Ils la jettent à ses pieds en disant, voilà, mais elle t'appartient, tout appartient. Pouvoir remettre la couronne de son service ou de son service à Dieu, et dire voilà, à toi la gloire, à toi toute la gloire, non pas à nous, à moi, mais à toi la gloire. Une louange trinitaire, la gloire, l'honneur, la puissance. 24 trônes, 24 vieillards, plénitude de l'esprit, 7 lampes et 7 esprits de Dieu. « Apocalypse chapitre 5, les versets 11 à 14. J'aime beaucoup lire ces textes régulièrement. Aujourd'hui, avec les BD, avec les livres, avec les films, toutes les séries animées, il y a beaucoup d'imagination, il y a l'heroic fantasy, enfin voilà, beaucoup de jeunes, moins jeunes, beaucoup de gens partent dans tous ces mondes fantasmés, de rêves, avec d'autres planètes, avec des êtres bizarres, etc. Quand on lit l'Apocalypse, on est servi, je trouve que les visions sont aussi extraordinaires. Je regardais, j'entendais la voix de beaucoup d'anges autour du trône, des êtres vivants, des vieillards. Leur nombre était des myriades de myriades, des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, « À l'agneau qui a été immolé, il est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire, la louange, une adoration septuple, parfaite, pleine et entière. » Je continue la lecture. « Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient, à celui qui est assis sur le trône, à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, la force au siècle des siècles. Les quatre êtres vivants disaient Amen, et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. » Quadruple. Je vous le redis, hein. Louange, honneur, gloire et force. La création a une adoration qui est multiple de quatre, qui est quatre. Donc on a une adoration trinitaire, une adoration septuple, complète, parfaite, et une adoration de quatre pour toute la création. C'est plus que des mots. Quand je rencontre Dieu, quand je m'approche de Dieu en esprit et en vérité, est-ce que toutes ces choses-là me parlent ? Puissance, richesse, sagesse, force, honneur, gloire, louange. Et est-ce que j'ai envie de me perdre, pas seulement dans ces mots, mais dans la réalité qu'elle décrive? Est-ce que j'ai envie de rencontrer le Dieu qui est décrit au travers de cette louange? Il faut que les vrais adorateurs adorent Dieu en esprit et en vérité. Il y a quelque chose de quand même de fantastique. Je le fais dans ma vie privée, mais souvent quand je suis au culte et penché, je me dis voilà, mais on est dans la présence de tout ce monde céleste, et ce culte céleste, j'en fais partie. L'Esprit de Dieu habite dans vos cœurs par la foi. Vous êtes une habitation de Dieu en esprit. Seigneur, je ne suis pas à Jérusalem, je suis à Kévin. Ça marche aussi à Kévin. En ce moment, Jérusalem, faire le tourisme, ce n'est pas le bon endroit. Pouvoir rencontrer Dieu n'importe où, n'importe quand, n'importe qui, tous les coins de la terre, dans mon lit, voilà. En voyage, à la maison, pendant mes courses, pouvoir laisser l'esprit chanter, prier en langue, prier par l'esprit, se développer par l'esprit dans mon être intérieur, voilà, avoir ce ressort que donne toute cette louange extraordinaire. Si tu connaissais le don de Dieu. Jésus va, voilà, dit à la Samaritaine, voilà, mais tu peux toi aussi entrer dans quelque chose d'extraordinaire. Je vous ai lu, hein, tous les grands hommes de Dieu, les femmes de Dieu, qui ont, ils étaient assez, quand même assez peu nombreux. Israël, il y avait tout un protocole. Il fallait d'abord arriver à Jérusalem, il fallait entrer dans le parvis du temple, il fallait offrir des sacrifices, et puis il y avait tous ceux qui célébraient Dieu. On en faisait partie, mais il n'y avait pas forcément de lien de rencontre personnelle avec Dieu. C'était le culte d'un peuple. Là, il s'agit d'un culte qui est plus personnel. Je me réjouis un jour d'être au milieu des 24 vieillards. Et puis de voir ces êtres vivants, ces êtres extraordinaires qui portent le trône de Dieu, qui symbolisent la création. Alors après, chacun a l'imagination qu'il veut. Moi, j'aime bien imaginer les choses. Allez, on lit encore un texte. Dans l'Apocalypse, pour vous effrayer un peu. Apocalypse au chapitre 1. Je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur. J'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, qui disait « Ce que tu vois, écris-le dans un livre. Envoie-le aussi aux sept églises qui sont à Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie, Laodicée. » Je me retournai pour savoir quelle était la voix qui me parlait. Après m'être retourné, je vis sept chandeliers d'or. Au milieu des sept chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe, ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête, ses cheveux étaient blancs comme la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'ils avaient été embrasés dans une fournaise. Sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Il avait dans sa main droite sept étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à deux tranchants. Son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant « Ne crains pas. Je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort, voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » C'est la vision du Christ ressuscité. C'est ce binôme, Christ est en même temps l'agneau, le sacrifice, mais il est en même temps le sacrificateur et il est en même temps le roi, le Seigneur des seigneurs, celui qui vient. Après la résurrection, il est allé à la rencontre des femmes, des disciples. Certains l'ont reconnu, d'autres ne l'ont pas reconnu. D'autres lui ont dit, est-ce que c'est vraiment toi ? On veut voir, on veut toucher tes mains, ton côté, on veut voir qu'est-ce qui t'est arrivé. Et puis il y a les disciples d'Emmaüs qui marchent avec cet homme qui les a rejoints, puis qui leur parle de Jésus, puis tout d'un coup, ils s'arrêtent dans une auberge. Il rompt le pain, le vin, puis là, tout d'un coup, leurs yeux s'ouvrent. Et quand leurs yeux s'ouvrent, tout d'un coup, hop, Jésus n'est plus là. Que ce soit l'Apocalypse, que ce soit le... On a trois récits dans Ézéchiel, un récit dans Ésaïe, de cette vision de la gloire de Dieu. Je ne suis pas très bon dessinateur, donc quand on était au collège, on avait un ami en Belgique, qu'on ira voir dans 15 jours, qui était architecte de formation. Alors je lui ai dit, tu vas me lire tous ces récits extraordinaires, et comme tu es architecte, tu vas me faire des dessins de ce qui est décrit. Donc il m'a fait cette mer de verre, ce trône de Dieu avec cette présence extraordinaire, ces animaux extraordinaires, et puis... toutes les visions dans l'écriture, voilà, qui me semblaient intéressantes. Je lui ai dit, voilà, il s'appelle Albert. Albert, tu vas me faire dessin, je veux voir, imaginer. Est-ce que vous arrivez à imaginer là Jésus tel qu'il est décrit? Quand il va revenir, s'il revient avant midi, il ne reste plus que 13 minutes. S'il revient demain, dans les jours qui viennent. Aujourd'hui, on ne sait pas très bien comment le monde va tourner. Si vous écoutez les nouvelles, voilà, vous avez compris comme moi que voilà, on est dans un monde incertain, inquiétant, et le Seigneur peut revenir à tout moment. Revenir sur le mont des Oliviers, tel qu'il est décrit là. Avec le mont des Oliviers qui s'ouvre, avec plein de choses qui se passent au Moyen-Orient. Les êtres humains n'ont pas toutes les solutions. Ils ne les ont pas eu hier, ils ne les ont pas aujourd'hui. Je ne suis pas sûr qu'ils les aient demain. J'écoutais encore ce matin sur France Info, je crois que ça devait être le ministre des Affaires étrangères, ouais, qui parlait d'Israël, de Jérusalem, de ce que devrait faire un tel et un tel. Voilà, mais quand on écoute et quand on ouvre ses oreilles plus larges, on sait très bien qu'à l'heure actuelle, les solutions humaines sont misérables, inexistantes. Donc Jésus, tel qu'il est décrit là, peut revenir bientôt. Personnellement, j'ai hâte de le rencontrer. Ils verront celui qu'ils ont crucifié, le Seigneur de gloire, l'agneau de Dieu. Je vais m'arrêter là, on poursuivra plus tard. On a vu le culte terrestre avec voilà, les souverains sacrificateurs, les sacrifices, les chantres, tous ceux qui vont chanter. On a vu la rencontre avec la Samaritaine. On a vu le culte céleste. On verra ensemble le culte dans l'Église. Nous, comment on les concernait. Puis on verra quels sont les trois pas des choses simples. Hein. Comment venir à Dieu en esprit et en vérité. Il n'y a pas de truc. Hein. Mais on a des très beaux textes qui nous disent comment entrer dans les parvis de Dieu avec des louanges. Comment contempler l'agneau de Dieu sur le trône, le sacrifice, et comment entendre la voix de Dieu qui appelle, qui enverrai-je, qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi, me voici, envoie-moi. Alors je vous laisse avec ces textes, ces réflexions, et puis on se revoit une prochaine fois.